êtes sur Clem Radio. Aujourd'hui, on va décortiquer une expo visible en ce moment à la médiathèque de Ribécourt. Elle est réalisée par trois auteurs, qui sont Gilles Habier, Cathy Itac et Thomas Scotto. Deux d'entre eux sont présents avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Gilles Habier. Bonjour Gilles.
Bonjour à toutes et tous.
Et Thomas Scotto. Bonjour Thomas.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour à vous.
Avec moi, cinq lycéens qui vont vous poser des questions sur cette exposition. Je vous laisse entre leurs mains.
Cette exposition s'intitule « Trois auteurs, trois univers » à visiter jusqu'au 28 novembre à la médiathèque de Ribécourt.
En entrant dans l'expo, on voit dans un premier temps vos trois photos et trois icônes que vous avez choisies pour vous représenter.
Gilles, c'est un homme qui tient une chaise en équilibre. Pourquoi ce symbole ?
C'est le mot qui vient d'être dit, c'est équilibre. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien essayer de se tenir en équilibre. On a cherché en fait comment on pouvait représenter l'équilibre. Et finalement, on s'est dit, on va le mettre en action avec cette chaise qui est effectivement portée. Pour moi, c'était ce mot-là, l'équilibre.
Thomas, vous êtes représenté par une sirène. Êtes-vous un plongeur à la recherche de sa sirène ?
Alors, c'est une très jolie question. Oui, je suis forcément à la recherche d'une sirène, mais si vous pouviez me voir en vrai, mais là, on est à la radio, c'est un peu dommage, mais j'ai tout de la sirène. Tout. Voilà. Bon, c'est surtout que, en fait, c'est une figure mythologique qui me fascine, mais depuis, genre, que j'ai 15 ans, quoi. Enfin, mais même avant, et en fait, ça n'est jamais parti. Et je suis même devenu un super gros collectionneur de sirènes. Alors, quand je vais dans les classes et que souvent on me dit pourquoi vous aimez les sirènes, ce que j'aime dire aux plus petits, c'est que bon, les licornes, ça n'existe pas. Alors, ils me disent, non. Je dis, les extraterrestres, ça n'existe pas. Non. Je dis, mais en revanche, les sirènes, oui. Et là, ça fait un grand blanc et un grand silence. Mais oui, j'aime vraiment ça, les sirènes, ouais.
Ensuite, on découvre la bibliographie plus qu'étonnante de chacun d'entre vous. Thomas, votre liste mesure 1m10. Celle de Cathy mesure 80 cm et celle de Gilles 70 cm. Thomas, à vous seul, vous dépassez presque la taille des deux autres bibliographies réunies. Comment faites-vous ?
Ah oui, c'est vrai, mais tu vois, je crois qu'on n'avait pas tellement mesuré tout ça, mais je dépasse les deux autres. Vous voyez, c'est une petite satisfaction de ce jour-là. C'est vrai qu'on a quand même cherché les uns, les autres, les unes, les autres à rendre au mieux tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est chouette hein, que vous ayez vu tout ça. C'est drôlement intéressant.
Ouais. Et en plus, c'est absolument inversement par rapport à nos tailles, en fait. Et d'ailleurs, quand on est tous les trois ensemble, Cathy, Thomas et moi, on a une consigne, c'est de surtout pas mettre Thomas au milieu. Parce que sinon, on fait toujours penser au Dalton.
Après, on arrive sur un espace qui s'apparente à un autoportrait où vous nous donnez vos influences. Donc films, musique, peinture, livres. Pour les goûts musicaux, est-ce que ce sont des musiques que vous écoutiez plus jeune ou est-ce des musiques que vous écoutez en écrivant ?
Alors, pour ma part, les musiques que j'ai mises, il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que oui, il y a des musiques que j'aimais beaucoup. Je crois que je suis quand même beaucoup plus parti sur des musiques que j'écoute en écrivant quand, par exemple, ce sont des musiques de films. Moi, je sais que j'adore écrire en écoutant des musiques de films, tout simplement parce que déjà, ça raconte une histoire. Si j'ai besoin de quelque chose de doux, je sais que je vais peut-être mettre plus... Un compositeur comme Philip Glass qui a fait des films plutôt très doux. Si j'ai envie que ça pulse un petit peu, je vais plutôt écouter des BO des films de Quentin Tarantino, par exemple. Donc, pour ce qui est du cinéma, c'est des moments d'écriture. Après, tous les autres, c'est vraiment des chanteurs ou des chanteuses qui me touchent dans ce qu'ils disent ou dans le texte. Alors, si vous remarquez, si vous regardez bien les influences, il y a quand même pas mal de chanteurs qui sont ou des chanteuses qui sont très mortes. Mais ça me fascine.
Alors en fait, je me suis rendu compte que cette partie-là, en la réalisant, en y réfléchissant, c'est finalement la première fois que je parle de manière aussi intime de moi. Je crois que j'ai jamais donné autant d'informations sur mon enfance, sur d'où je viens, que dans cette partie-là, en parlant des films, en parlant des livres, en parlant de la musique. Et moi, c'est vraiment la musique. Qui m'a accompagné depuis que je suis petit, en fait. Il y a forcément des morceaux que je vais peut-être un peu effectivement utilisé quand j'écris, mais en réalité, depuis quelque temps, je vais écouter la même musique, une musique un peu de chant que les gens utilisent quand ils font de la méditation. Mais sinon, toutes les musiques là, c'est que des musiques que j'ai écoutées et qui m'ont vraiment suivi jusqu'à aujourd'hui.
Moi, si on me demandait quelles sont mes influences, j'aurais du mal à choisir. Comment avez-vous fait ?
Il a fallu vraiment rentrer dans... En fait, j'ai essayé de penser à toutes les choses que j'aimais et toutes les choses qui me venaient en tête tout de suite quand je pensais aux livres, quand je pensais aux films. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était que ce soit pour les livres ou pour que ce soit pour les films, mais même la musique, c'est vraiment des choses qui après m'ont influencé, je pense, dans mon écriture. Dans les films que j'ai mis, c'est des films où vraiment, à un moment donné, soit une scène en particulier, soit le film tout entier, m'ont suffisamment bousculé pour que je puisse encore y penser aujourd'hui, en fait. Et forcément, qu'ils ont aussi influencé ma façon d'écrire, parce que je pense que j'ai aimé la façon dont ils racontaient l'histoire, que ce soit le film ou le livre, mais même la musique.
Comment on a fait, effectivement? Alors, moi, je me suis basé, par exemple, pour les films. La question d'avant était super jolie aussi. C'est-à-dire que, oui, pour les films, je me suis basé sur les films qui m'avaient bouleversé quand j'étais enfant. Par exemple, je sais que j'ai mis le film E.T. de Steven Spielberg parce que je l'ai vu, je crois, quand j'avais 10 ans et que je crois que j'ai compris à ce moment-là qu'une histoire, j'avais le droit, en la regardant, de pleurer. Cette histoire m'a vraiment, voilà, et pourtant Dieu sait si effectivement elle est complètement imaginaire et inventée. Il a fallu se creuser la tête, hein, comme disait Gilles, mais quand on a des choses comme ça si affectives, elles viennent quand même assez naturellement. Je pense que si on était à côté de vous aujourd'hui, on pourrait vous reposer la même question et je crois que forcément vous trouveriez une musique. Alors c'est peut-être une musique du moment, bien sûr, mais quelque chose qui vous emporte. Alors ce qui est compliqué, ce qu'on s'est dit avec Gilles et Cathy, c'est que ces influences, effectivement, on les a écrites, on les a pensées il y a quand même déjà plusieurs années. Évidemment qu'aujourd'hui, si on les reprenait, on recommençait, on y ajouterait des choses. Mais sans doute que tout ce qui est dedans, on les garderait, parce que c'est des choses qui sont ancrées pour toujours.
Un peu plus loin, il y a une reconstitution de la scène que vous utilisez quand vous interprétez des lectures à voix haute, devant un public, notamment pour le roman De Pierre en Pierre.
On y trouve trois tabourets avec dessus trois bols. Sur chaque bol, un prénom, Gibus, Camille et Toche, qui sont certains personnages de ce roman. Comment faites-vous pour choisir des noms à vos personnages ? Est-ce des gens proches de vous ou totalement inventés ?
Alors, il y a à la fois, ouais, c'est bien remarqué, il y a à la fois ces trois prénoms sur les trois bols, des petits bols bretons, là, effectivement, qui sont effectivement les prénoms de Pierre en Pierre, de nos personnages. Ça, je vais y revenir parce que vous allez voir assez rapidement que c'était très simple à trouver. Et puis, il y a aussi dans un autre endroit de l'expo, donc, tous les prénoms des personnages de nos histoires. Et là, ce qui est drôlement intéressant pour nous, c'était de s'apercevoir que quand on a pourtant publié quasiment au même moment, on a en revanche pas du tout la même taille de liste de personnages. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai très peu de personnages dans mes histoires. Ou alors, si j'ai des personnages... Enfin, non, c'est pas vrai ce que je dis, je vous dis des bêtises. J'ai plein de personnages, mais ils ont très peu de prénoms ou de noms. Je les nomme pas. Très souvent, c'est réfléchi dans le sens où, si je ne mets pas un prénom de personnage, je me dis que tout le monde peut s'en emparer et y mettre le sien. En revanche, pour De Pierre en Pierre, Toche, Gibus, Camille, bon, c'est assez simple dans le sens où le prénom de Toche, c'est moi qui le joue et qui l'écris, et je m'appelle Thomas. Gilles, c'est Gibus, et Cathy, c'est Camille. Là, on était plus sur des surnoms, voilà. Mais c'est pas si simple de trouver les prénoms. Et peut-être c'est aussi pour ça que moi j'en mets pas beaucoup. Je vais passer le téléphone à Gilles parce que c'est celui dans l'exposition, vous verrez, qui a le plus de prénoms. Et il y ajoute aussi des noms de famille. Donc effectivement, comment trouve-t-il ces prénoms-là ?
En fait, avant même de commencer à écrire l'histoire, quand je commence à réfléchir finalement aux personnages, c'est un moment très important de trouver leur prénom. Et effectivement, je le choisis. Alors, à force d'y réfléchir, je me suis rendu compte que je le choisissais en fonction de l'énergie de mes personnages. Je fais souvent un test, en fait, quand je suis dans les classes, où je demande aux enfants, par exemple, quand ils entendent le prénom Lucie, est-ce qu'ils pensent à quelqu'un de plutôt énergique ou à quelqu'un de plutôt calme? Et à chaque fois, la majorité pense à quelqu'un de plutôt calme. Et c'est marrant parce que moi aussi, c'est comme ça que j'interprète finalement le prénom. J'imagine plutôt un personnage calme. Donc le prénom, moi, il est souvent attaché à l'énergie des personnages. Et après, c'est vrai que moi, j'aime bien leur donner des noms de famille. Et ben en fait, j'ai un beau teint, j'ai un annuaire. Et j'ouvre les pages au hasard et je pointe. Et on va dire une fois sur deux, c'est le nom de famille qui correspond. Je laisse le hasard déterminer.
Nous aimerions un scoop. Vous allez lire un texte à voix haute la semaine prochaine aux internes du lycée. Ce sera quel texte? Nous sommes curieux.
Oui, vous êtes très curieuse et très curieux, effectivement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont internes, justement?
Oui.
Eh bien, ils seront
tous là.
Vous serez tous là et toutes là. Bah oui, parce qu'il est tard, donc forcément vous êtes interne, je suis bête. Je laisserai Gilles parler évidemment, mais moi je crois que malheureusement vous n'en saurez rien.
Sinon, nous sommes déçus.
C'est bien dommage.
Très déçus, bah bien sûr.
Et moi je suis vraiment désolé, c'est-à-dire que Thomas ne m'a rien dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il ne veut pas me le dire à moi non plus. Vous vous rendez compte, c'est quand même bientôt. Il exagère quand même.
En faisant quelques pas, nous découvrons une liste de questions suivies de vos réponses et de quelques photos. Une question nous a intrigués, ou plutôt ce sont vos réponses qui nous ont intrigués.
Voici la question. Connaissez-vous votre livre avant de l'écrire? Gilles, vous avez répondu « oui » et je crois que je ne pourrais pas l'écrire autrement. Je connais même son titre.
Cathy Etac a écrit « Je sais souvent dès le départ où je veux aller ».
Thomas, quant à vous, vous avez répondu « non » ou « si rarement ». Je ne fais pas de plan.
Vous avez répondu très différemment, et pourtant vous arrivez à écrire des livres ensemble. Comment est-ce possible?
Oui, c'est vrai. Alors pour nos livres personnels, les réponses, je crois qu'elles sont, évidemment justes et personnelles, forcément. Quand on a écrit à trois, il a fallu s'accorder, comme vous vous imaginez bien. Sauf que on ne s'est pas tout à fait accordé de la même manière pour les deux livres qu'on a écrits ensemble, à savoir « Va te changer », qui est pour les ados vraiment de votre âge, et De pire en pire, qui est pour les donc un peu plus jeunes. Va te changer, on a passé du temps à déjà déterminer forcément, alors plus que ce dont on voulait parler, une trame d'histoire. C'est-à-dire qu'on est parti quand même d'un constat, c'est que il y a beaucoup de choses où on a une sensibilité commune tous les trois. C'est aussi pour ça qu'on aime être ensemble, qu'on aime lire ensemble, et de fait qu'on aime écrire ensemble. On a une sensibilité commune. Là, on avait envie d'aborder assez rapidement le sexisme. Le sexisme qui se retrouve déjà dans certaines de nos propres créations. En revanche, là où il a fallu discuter, c'était notre manière de regarder le monde et ce livre-là. Donc, comment ça s'est passé? Ben, on s'est mis dans un canapé. On a eu la chance d'avoir une résidence d'écriture pour le faire. Ça a pris du temps. On a fait une trame et on s'est partagé en fait chaque tableau de l'histoire, chaque chapitre, et c'était à chacun de l'écrire.
Et en fait, on partait chacun dans notre coin. Alors effectivement, la difficulté qu'on a eue, c'est que on n'écrit pas du tout de la même façon. Cathy, par exemple, elle a cette faculté de pouvoir écrire pendant des heures d'affilée. Elle se perd dans ses histoires. Et c'est vraiment une sensation qu'elle aime d'être vraiment... Ce moment d'écriture, elle peut y consacrer des heures. Avec Thomas, on est un peu plus proche de ça, où moi, par exemple, je ne peux pas écrire longtemps. Et là, bah, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on se donnait, allez, de 14h à 17h, chacun écrit son tableau. Et après, on se retrouvait, et puis il fallait se le lire. Et Cathy et Thomas avaient déjà écrit ensemble quand on s'est retrouvés pour ce texte-là, à trois. Et moi, je suis celui qui a eu le plus de difficultés à entendre immédiatement après l'écriture des remarques toujours bienveillantes, mais des remarques sur ce que je venais d'écrire. Moi, il me fallait toujours la nuit pour que je les accepte, les remarques de Cathy et Thomas. Sur le moment, je leur disais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis le lendemain, en y ayant réfléchi, je leur disais oui, finalement, je pense que vous aviez raison.
Et pour de pire en pire, on a décidé de changer la donne. Cette fois-ci, on a écrit l'histoire ensemble autour d'une table. On a vraiment, au fur et à mesure de l'histoire, décidé ensemble de chaque réplique des personnages.
Nous avons vu votre liste de personnages, et dans celle-ci, j'ai retenu le prénom Citerne, qui s'écrit donc avec le chiffre 6, et juste avant, j'ai vu une photo avec ce même chiffre. Or, ce n'est pas vous, mais Thomas qui a mis cette photo. Est-ce une coïncidence, ou peut-être un clin d'œil ?
Le chiffre 6, moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vrai que je l'ai mis dans les photos de mon grand déroulé là, de Kraft. C'est tout simplement parce que là aussi, c'est très intime, c'est-à-dire que à la fois par jeu et par goût, par plaisir, c'est vraiment le chiffre qu'on retrouve dans toutes mes histoires. Je le glisse forcément quelque part. C'est pas le plus compliqué des mots à mettre dans une histoire, vous vous en doutez. Hein. C'est plus facile que radiateur, raclette ou choucroute. Mais 6, c'est vraiment très important. Ça, c'est sûr.
Mais là, c'est vraiment le hasard. Mais c'est vrai que, par exemple, avec Thomas, on vient de coécrire tous les deux un texte. Et à un moment donné, il y a une échelle de cordes qui est créée pour descendre dans une grotte. Et elle avait 5 barreaux. Et on a réalisé que c'était peut-être un peu trop court. Moi, j'ai besoin que ce soit précis. Je trouvais que c'était trop court. Et Thomas était très content quand je lui ai proposé 6 barreaux au lieu de 5. Donc aujourd'hui, l'échelle a 6 barreaux.
Par la suite, nous faisons face à une sorte de pêle-mêle. Voici votre description.
Où les auteurs sont en cours d'écriture. Brouillons, manuscrits, notes, objets affectifs, qu'on pourrait même toucher s'il n'y aurait pas la vitre. Qui a mis sa figurine de Goldorak ?
Mais Goldorak, c'est moi ! Et c'est là où vous voyez que nous sommes tout à fait de très jeunes auteurs et de très jeunes autrices. Des références magnifiques. Oui, Goldorak, moi, franchement, c'est alors pour le coup, clairement, toute mon enfance. Quoi. C'était les premiers mangas, quelque part, je pense. Hein. Donc, cette figurine-là, ouais, je l'ai en plusieurs fois chez moi. Vraiment. J'adore. J'ai toujours aimé.
Et qui a mis une photo de Romy Schneider ?
Schneider.
Bah oui, t'inquiète pas. C'est encore moi, c'est encore Thomas. Ça fait partie d'une des actrices qui me bouleverse le plus. J'ai vu ses films, évidemment. C'est quelqu'un qui, en plus, d'origine allemande, quand elle joue, elle a un petit accent que je trouve hyper touchant. Et elle a joué des rôles, mais très, très durs. Et alors, ce qui est fou, c'est que là où vous nous appelez aujourd'hui, on est tous les deux avec Gilles dans une ville qui s'appelle Montauban. Et très honnêtement, c'est très très loin de Ribécourt, Montauban, puisqu'on est dans le sud, on est près de Toulouse. Et ce qui est fou, tu parles de Romy Schneider, c'est que dans cette ville-là se trouve une maison qui a servi de décor pour un film qui s'appelle Le Vieux Fusil. C'est un film assez horrible qui se passe pendant la guerre, où Romy Schneider est en couple avec un comédien qui s'appelle Philippe Noiret. Elle va mourir brûlée vive par les Allemands. Et tout le film raconte la vengeance de Philippe Noiret qui va essayer de tuer un à un tous les nazis qui ont envahi sa maison. Et figurez-vous que la maison, elle est là, elle est dans cette ville. Donc Romy Schneider, pour moi, c'est une des comédiennes que j'aime le plus.
On s'approche de la fin de l'expo. Vous avez créé votre propre dictionnaire en donnant des extraits de vos romans qui contiennent le même mot.
Comment avez-vous choisi ces mots ? Parce que le mot violon qui apparaît dans vos romans, ça n'étonne pas. Mais canard, c'est un petit peu plus surprenant.
Tu te rappelles, Thomas, comment on les a choisis ?
Les mots
oui.
Du dictionnaire ?
Ouais.
Je crois que, en fait, bon, on voulait absolument vous imaginer des mots qui se retrouvent dans nos trois écritures. Donc, je crois qu'on a déjà passé un peu à la trappe, pas à la trappe du tout, mais à la passoire presque, au tamis, nos livres respectifs. Il y a des mots qui sont arrivés assez, en évidence. Alors, est-ce que c'était sur les livres du moment qu'on était en train d'écrire ? Oui, par exemple, le mot « fesse », on s'était dit que ce mot « fesse », il pouvait être assez intéressant parce que c'est un mot de la vie de tous les jours, évidemment. C'est un mot, heureusement, qu'on a dans tous nos livres. Et si vous regardez les trois définitions, on n'utilise absolument pas le mot « fesse » de la même manière, tous les trois. Après, le mot « violon », Gilles, toi, tu as écrit un livre dont c'est même le titre.
Oui, on savait aussi, par exemple, le mot labyrinthe, ça je me rappelle. On savait, celui-là, on le savait tout de suite qu'on essaierait de... Il y a des mots, en fait, c'est pas qu'on les voulait, mais je sais que pour labyrinthe, on a choisi le mot labyrinthe, on s'est dit, voyons voir si celui-là, on l'a tous les trois.
En fait, il y a quelques mots comme ça où on les a cherchés dans nos livres pour voir si on les avait tous les trois. Et après, le but de cette installation-là, c'était de montrer comment un même mot, on ne l'utilisait pas de la même façon pour montrer effectivement nos différentes sensibilités et la façon d'utiliser effectivement les mots d'une façon différente.
C'est vraiment une manière, vous savez, d'aborder le style de l'écriture. Et bien souvent, avec nos éditrices et nos éditeurs, c'est une sacrée petite bataille, en fait, de conserver notre style, notre patte. Ce qui fait que, oui, Gilles Labier écrit parce qu'il est Gilles Labier, Thomas, enfin, vous voyez bien, Cathy, pareil, et qu'on ne va pas se mettre à écrire comme les autres, en fait. Donc, cette grande partie du dictionnaire peut servir aussi à ça.
Enfin, fin de l'expo, vous avez noté le dernier mot de chacun de vos livres. Qui a eu l'idée de faire ça ?
Est-ce que vous êtes particulièrement attentif aux derniers mots de vos livres ?
Quand on a voulu créer cette exposition, on voulait à la fois montrer comment on pouvait être sensible, comme le disait Thomas, avoir les mêmes sensibilités et écrire de manière différente, mais on voulait aussi qu'elle ait un aspect graphique, qu'elle soit belle à voir. Et puis aussi, on avait dû avoir une discussion avec Cathy qui, intentionnellement, parfois, vous pouvez repérer qu'il y a un mot qui revient. Et Cathy, elle a une intention derrière de terminer avec un mot précis. Je ne pense pas au dernier mot. C'est le dernier mot qui vient. Alors que Cathy, par moment, sur certains romans, elle veut terminer avec un mot, d'ailleurs, qu'on retrouve plusieurs fois.
Je crois que c'était le mot sourire.
C'est le mot sourire, voilà. Effectivement.
C'est le mot sourire. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de se dire que le mot de la fin, il est forcément accompagné d'une ponctuation. Moi, j'ai la fâcheuse tendance, malheureusement, et heureusement, Gilles m'apprend beaucoup en écriture, c'est que je mets beaucoup, beaucoup, alors beaucoup trop, certains diront, des points de suspension. J'adore ne pas finir les histoires. Et ça aussi, ça nous permettait. Mais comme dit Gilles, on la voulait graphique, cette exposition. Comment graphiquement présenter les mots de la fin? C'était, comme vous l'avez bien vu, laisser une grande page blanche et mettre le mot à l'extrême droite de la feuille. Voilà. Mais très honnêtement, tout a été réfléchi à trois. Il n'y a vraiment pas une personne en particulier qui a eu telle idée, telle idée, telle idée.
Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse le mot de la fin de cette émission.
Déjà, un grand, grand merci, parce que vos questions, et j'espère, puisqu'on sait qu'on va se revoir et qu'on va vous... On va donc être en lecture tous ensemble. J'aimerais bien qu'on les récupère, vos questions, parce qu'elles sont drôlement pertinentes. Et puis, de savoir que vous avez vu l'exposition, que vous l'avez fait vivre, et forcément, vous pouvez imaginer que le but ultime de ce pourquoi on l'a fait est atteint. Donc, vraiment, merci beaucoup.
Et oui, je dirais comme Thomas, et puis aussi ravi de pouvoir vous rencontrer en vrai la semaine prochaine et de vous entendre clairement et de pouvoir discuter avec vous, non pas en étant au pied d'un immeuble et en collant mon oreille à mon téléphone, qui doit être toute rouge maintenant.
Oui, désolé pour ces conditions, pourtant Montauban, vous êtes pas mal. J'ai mon neveu qui habite Montauban, si vous le croisez, vous le saluez.
Très bien, on lui dira bonjour.
Oui, voilà, bonjour. D'accord, très bien. Un grand merci à vous.
Merci. Pareil, merci à vous. Au revoir.
Merci, bonne soirée.
Merci Gilles, merci Thomas, merci aux 5 élèves ici présents, c'était Clem Radio avec Thomas Scotto et Gilles Labier pour vous présenter l'expo de la médiathèque. Merci également à l'équipe de la médiathèque qui nous a permis de mettre en place cette rencontre. Je vous dis à tous à très bientôt.